Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Et aujourd'hui dans les studios, on a le plaisir d'avoir Jean-Baptiste Brolière qui vient nous parler d'un documentaire qu'il est en train de faire. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Christophe.
Documentaire avec un sujet pointu, particulier. Racontez-nous l'histoire d'une femme et des camps de concentration à Java.
Oui.
C'est un sujet assez dur.
Effectivement, c'est un sujet dur et relativement peu couvert. C'est une des raisons pour lesquelles on s'y intéresse. Mm-hmm. Je dis « on » parce qu'on est à plusieurs à travailler sur ce documentaire. Il y a évidemment mon producteur, Thomas Watson, ainsi que ma compagne, Alexia Solisiono. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce sujet? Parce que moi, j'ai vécu un certain temps en Indonésie, mm-hmm. où j'ai travaillé. Et pendant cette période où j'ai vécu en Indonésie, je n'ai jamais entendu parler des camps de concentration japonais qui couvraient toute l'île de Java. Et une fois que je me suis rendu, quand j'ai déménagé en Australie, j'ai rencontré Thomas qui m'a parlé de l'histoire de sa grand-mère. Et j'ai appris que tout un pan d'histoire inconnue...
Absolument.
Voilà. Au sujet en particulier des camps de concentration japonais, je vais y arriver, n'avait jamais été couverte. Voilà, donc tout de suite ça m'a intéressé et puis voilà, c'était le début de l'aventure avec Thomas.
D'accord. L'Australie et l'Indonésie, c'est des pays qui sont très liés, mm-hmm. Mais qui ont une histoire très chargée quand même.
Absolument. Absolument.
Vous pouvez nous expliquer un petit peu justement juste les grandes lignes de ce lien. On ne peut pas revenir sur 100 ans d'histoire ou 200 ans d'histoire, mais c'est chargé dernièrement sur l'après-Deuxième Guerre mondiale en fait.
Oui, alors il y a eu, les échanges ont toujours été compliqués entre l'Indonésie et l'Australie. Je peux en parler d'un en particulier qui nous lie à l'histoire de Yvonne Holman, qui est la protagoniste du documentaire.
Donc néerlandaise. Parce
qui est néerlandaise, c'est bien ça.
L'Indonésie était avant sous pavillon néerlandais.
Absolument, ça a été une colonie hollandaise, mm-hmm. pendant 300 ans. Mm-hmm. L'Australie a accueilli les réfugiés néerlandais, enfin du moins la Croix-Rouge australienne, si je ne me trompe, rapatrié beaucoup des réfugiés dont les anciens détenus des camps de concentration japonais. Donc ça a été une terre d'accueil pour les Hollandais, et donc il y a pour cette raison une communauté assez importante hollandaise. En tout cas, c'est le lien qu'on peut établir à travers ce documentaire. Après l'histoire de ce qui s'est passé, ce qui est assez intéressant de savoir, c'est que moi je trouve très intéressant d'observer le fait que l'Australie et l'Indonésie sont probablement les deux pays qui ont le plus de différences culturelles, extrêmes en tout cas, dans le monde. Il y a très peu de pays, le seul pays occidental présent si loin en Asie est certainement l'Australie avec la Nouvelle-Zélande évidemment, mais la proximité avec l'Indonésie.
Ils partagent une frontière, en tout cas en pleine mer, il y a des frontières.
Exactement.
Il y a des frontières partagées, c'est le voisin l'Indonésie.
Hein. Exactement. Et puis probablement, je dirais, un des événements dans lequel, moi, j'étais plus ou moins lié, qui relate les relations un peu compliquées entre l'Indonésie et l'Australie. C'est le cas de Mayuran Sukumaran, cette personne qui a été exécutée l'année dernière, mm-hmm. et avec qui j'ai travaillé. Donc il était interné, il était emprisonné à Bali, mm-hmm. dans la prison Kerobokan. Il avait été emprisonné pour trafic de drogue en l'occurrence. Et il avait créé une école d'art dans laquelle j'étais amené à enseigner le cinéma. Et il y a eu beaucoup, les relations étaient très compliquées par rapport au fait qu'il a été condamné à mort. L'Australie a beaucoup fait pour que, mm-hmm. la condamnation soit annulée. Les Indonésiens étaient évidemment quelque peu sensibles à l'interventionnisme de l'Australie. Donc ce sont deux pays très intéressants avec des cultures fascinante, mais des rapports très complexes.
Il y a même eu un contexte politique avec des écoutes téléphoniques,
etc. Bien sûr.
Qui ont compliqué un peu les choses à l'époque.
Absolument, oui, ça... Ça a rendu les choses un peu compliquées, effectivement. Effectivement. Je ne me prononce pas trop sur le sujet.
Absolument.
Parce que ça reste aussi...
Et ça explique bien la complexité en tout cas des liens entre les deux pays.
Absolument, absolument.
Et si on revient au documentaire, vous en êtes où dans le documentaire? Il a été tourné, il est fini, il a déjà été vu, projeté, etc.
Excellente question. Alors à ce stade, on a fini le tournage.
Ouais.
L'essentiel des... Alors nous avons voyagé en Indonésie où on a retrouvé les camps de concentration. C'était déjà une difficulté qu'on avait pour le documentaire.
Si on s'arrête là-dessus, oui. Ça a été compliqué au niveau des autorités indonésiennes ou pas?
Pas du tout.
Non.
Pas du tout. Non, c'est pas un sujet qui est sensible. Au contraire, les Indonésiens nous ont beaucoup aidés. Le peu de personnes qui, alors, ils ont beaucoup aidés dans la mesure du possible, dans ce sens où ce qui est important de noter, c'est que cette période de l'histoire a disparu. Littéralement même des pages d'histoire, à la fois parce que les Indonésiens ont tellement souffert qu'ils n'ont pas du tout envie de s'en souvenir, mais aussi parce que juste après la fin de la guerre, il y a eu une révolution, le soulèvement pour l'indépendance de l'Indonésie, et que les Indonésiens étaient trop occupés à acquérir l'indépendance. Donc c'est une partie de l'histoire qui s'est dissoute, on va dire, dans la période assez tumultueuse qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Mais on a eu beaucoup de chance de retrouver des personnes qui avaient vécu, qui avaient connu le camp de concentration et qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont orientés, qui nous ont aidés à trouver des personnes qui avaient connu, qui avaient été même présentes dans le camp de concentration, qui nous ont expliqué ce à quoi ils ressemblaient, qui nous ont amenés sur les lieux. Donc non, ça a été au contraire. Les Indonésiens nous ont soutenus, du moins les personnes que nous avons rencontrées ont été d'un soutien considérable. Ça répond à votre question.
Ouais. Mais aujourd'hui, vous en êtes où sur le documentaire, donc ?
Alors, où en est-on au documentaire ? On vient de finir une interview avec un des survivants, le dernier survivant qui a vécu dans le camp de concentration et de la famille Holman, dont Yvonne faisait partie. On était en Hollande il y a un peu moins de 3 semaines. Ça a été une rencontre très émouvante et donc on a une partie énorme, beaucoup des questions qu'on se posait, on trouvait réponse avec l'interview de Monsieur Holman. Et avec cette interview, c'est la quasi-totalité du tournage qui est achevé. Donc non, on est sur le point de commencer le montage, qui est une période et un moment crucial de la vinification du...
vous le mettez en baril.
Exactement, voilà. C'est là qu'il va acquérir sa maturité. Et voilà où on en est, en tout cas, en ce moment.
Aujourd'hui, on peut voir quelque chose sur ce documentaire? Il y a un trailer quelque part. Vous pouvez
bien
nous
sûr.
Donner un peu une adresse on peut,
Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a un trailer sur Vimeo. Je n'ai pas l'adresse à l'esprit pour
on
le moment,
la
mais je pense
notre...
qu'on mettra sur SBS. Et je vous invite à la regarder. C'est un trailer qui résume, en l'occurrence, ce quoi porte l'histoire. Mm-hmm. Il y a aussi un synopsis. Et très bientôt, on aura davantage. Alors, on a un site aussi. Il y aura davantage d'informations qui seront apportées à mesure que le film évolue.
D'accord.
Et on organisera aussi une première ici à Melbourne.
D'accord.
Et on invitera des gens. Mm-hmm. Et bien sûr, vous êtes invité, Christophe.
Merci. Les Japonais dans tout ça. Vous avez échangé. Ça c'est un autre côté de l'histoire qui eux, ils aimeraient bien la cacher également. Ça c'est.
Alors,
il y a une réaction. Vous avez pu enquêter de ce côté-là?
Aucune.
Non.
Rien.
Vous avez essayé d'enquêter,
rien. Alors déjà, ce qui était très difficile, de trouver des informations sur le sujet. Il y a très très peu d'archives. Enfin, du moins qu'on a trouvé. Alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir que tout est comme étant en japonais, il y a peu d'archives. Mais comme on a un peu enquêté sur le sujet, on sait qu'il y a quasiment aucune archive qui est portant sur le, en tout cas japonaise, ce qu'on sait, c'est que les Japonais ont pas particulièrement envie de se souvenir de cette période, quelque peu trouble, et que en fait les archives qui étaient présentes à Java ont soit disparu, soit été détruites à l'arrivée des Anglais, des Américains et des Australiens quand ils sont arrivés à Java. Donc très difficile de trouver des informations, très difficile d'entrer en contact avec des personnes qui veuillent répondre à nos questions, à la fois parce qu'il y a peu d'informations, mais aussi, enfin, je pense qu'il y a peu de volonté de répondre à ces questions. Donc non, ça a été relativement, ça a été complexe.
On doit pouvoir dire que les Japonais ont peut-être fait un peu moins de travail sur la mémoire que les Allemands ont pu faire sur cette époque-là. Les Allemands ont fait un vrai mea culpa, un gros mea culpa. Les Japonais, beaucoup moins quand même.
Alors, je pense qu'intéressant, c'est une bonne comparaison, c'est une comparaison assez intéressante. Je pense qu'en fait, suite à la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé, c'est que l'Europe avait quand même vécu 3 guerres, j'inclus la guerre de 1870.
Avec la Prusse.
Voilà, exactement, extrêmement cruelle et sanglante. Et qui c'est arrivé à un point où, à la fois, je pense, toute l'Europe, les Allemands, les Français, enfin les belligérants, se sont dit, voilà, ça y est, c'est fini, on arrête. Et afin d'arrêter, d'éviter que ça ne se produise encore une fois, mettons ça dans dans les archives, gardons des traces, que l'histoire permet d'éviter que ça se répète. Je pense que le Japon passait par une période historique qui était assez nouvelle, enfin, même si l'histoire de l'Asie est aussi complexe, cette période d'expansion et de guerre, enfin de guerre mondiale, enfin régionale, était assez nouvelle. Et qui plus est, les rapports, je pense, on va dire, les réflexes culturels qui ont existé en Europe et qui, dans le contexte que je viens d'expliquer, ne sont pas produits en Asie. Il y a aussi, enfin, faut aussi mettre en cas dans le contexte aussi historique, hein, aussi en Asie, il y avait, enfin, les Américains sont intervenus et il y a aussi le fait que, voilà, que juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre froide et que très vite on a tourné la page de la Seconde Guerre mondiale, on a dit voilà, maintenant il faut se concentrer sur ce nouveau conflit afin d'éviter que, voilà, qu'il dégénère. Et je pense que ces différentes, on veut dire, couches, ces différents changements ont fait que, voilà, ça n'a pas les Japonais n'ont pas eu, je pense, à la fois le temps et probablement peut-être en partie la volonté de se tourner vers leur passé. S'il y avait volonté, il y aurait eu archivage. Ouais, enfin, il y aurait eu un travail académique qui aurait fait qu'on aurait archivé, qu'on serait concentré sur un... on va dire que le contexte, encore une fois, je sépare la population des dirigeants politiques. Je pense que la population n'a jamais pu avoir accès à l'information et que si ça avait été le cas, par exemple, si les Japonais avaient su que c'était passé, il y aurait très certainement eu un rapport très différent par rapport à leur passé. Mais ça semble changer. Et je le vois, par exemple, la nouvelle génération. J'ai eu l'occasion de rencontrer des Japonais et de parler avec génération. Alors, quand je dis ma génération, c'est les 30 plus. Et souvent, c'est des gens qui apprennent ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est. Et là, ils sont profondément affectés personnellement par ce qui s'est passé. Parce que l'essentielle majorité des Japonais sont des êtres humains comme nous le sommes. Et qui sont aussi affectés par la souffrance d'autres individus, en particulier quand cet effet est infligé par le pays auquel ils appartiennent à un certain moment. Donc je contraste ça par rapport à, on va dire que le contexte suite à la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide et la guerre aussi avec la Corée, c'était un contexte très lourd quand même et très compliqué, fait que le rapport à l'histoire est différent de celui qu'on a pu connaître en Europe. Voilà, d'accord. Je réponds pas complètement à la question.
Mais non, mais ça m'emmène à une autre question. Les Australiens même les jeunes générations ont un rapport à l'histoire qui est quand même très intéressant. Ils sont très intéressés par ce que leurs grands-parents ont pu vivre dans la Somme en France, etc. Est-ce qu'on s'intéresse aussi au niveau des jeunes avec cette relation avec l'Indonésie? Vous le sentez ça quand vous allez parler peut-être un peu aux plus jeunes générations?
Assez curieusement, j'ai pas vraiment eu l'occasion de parler avec des générations de mon âge. C'est plutôt avec des gens de la génération des enfants de Yvonne qui ont entre 50 et 60 ans. De leur part, il y a un intérêt accru. Ce qui est intéressant, c'est le rapport qu'entretiennent les Australiens par rapport à, je pense, à leur situation dans le monde, et en particulier en Asie. L'impression, je réponds pas complètement à la question, mais en partie, l'impression que j'ai, mais qui est également la mienne, c'est que c'est tellement nouveau, au moins cet événement, là en particulier cette histoire, que beaucoup en fait ne savent pas quoi en penser, dans ce sens où voilà, c'est vraiment une page d'histoire fraîche qu'on sort du réfrigérateur, même du congélateur de l'histoire, et il y a un intérêt, mais une sorte de, on va dire, de perplexité par rapport, voilà, on savait pas que ça s'est passé, et aussi, enfin, que c'est si proche. Je pense que notre génération, alors pour revenir à votre question initiale, notre génération a plus d'intérêt à l'égard de l'Indonésie, peut-être parce qu'on est génération plus de la globalité, et aussi, enfin, naturellement, je pense qu'il y a un rapport culturel avec une des îles les plus proches qui est Bali, mais qui est une porte d'entrée, et qui fait que, voilà, je pense que la génération d'Australiens actuelle, du moins un certain nombre d'individus veulent en savoir davantage. Après, bon, c'est un sujet vraiment particulier, mais je pense que l'histoire de manière générale intéresse qu'un certain nombre de personnes. Donc c'est un certain nombre d'initiés et de personnes qui sont naturellement intéressées par l'histoire qui sont amenées à vouloir en savoir davantage.
D'accord. Voilà. Jean-Baptiste Brolier, merci d'être passé.
Merci Christophe.
On mettra tous les détails sur notre site internet.
Merci beaucoup.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.